les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Une série belge, ça faisait longtemps que ça n'avait plus existé sur les écrans belges et donc a fortiori français, mais c'est chose refaite, on va dire, depuis la saison dernière avec une série qui s'appelait Septième Ciel Belgique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une série qui se passe dans une rédaction d'un journal d'horoscope, on va dire en clair. On suit le quotidien de Juliette, qui est la journaliste vedette donc de ce journal et de notre série, et... est-ce un bien, est-ce un mal, une nouvelle série belge, on le verra bientôt. En tout cas, ça rappelle certaines choses. Et par exemple, sachez que dans cette rédaction, il y a des toilettes mixtes, toilettes salle de bain mixtes, parce qu'on est en Belgique, donc on en fait un peu plus que dans, aux États-Unis. Est-ce que ça rappelle quelque chose aux auditeurs? J'en sais rien, mais nous, oui, n'est-ce pas, Alex?
Tout à fait, mais ce que je vous propose, c'est d'en reparler peut-être un peu plus tard dans l'émission. Ce qu'on peut faire, c'est revenir d'abord au personnage, à notre amie Juliette Laloux, qui est donc le personnage principal de cette série, une jeune journaliste de 28 ans, qui va enfin pouvoir accéder à un emploi stable en étant engagée comme chroniqueuse tendance du magazine d'astrologie.
Et c'est donc pas elle qui fait les horoscopes, en clair?
Non, ne dis surtout pas horoscope, parce que tu vas te faire taper sur les doigts par Hugo Melotte, le deuxième personnage principal. Ça n'est pas des horoscopes, c'est de l'astrologie, c'est différent.
Ah, pardon. Oui.
Juliette est présentée à ses collègues, peu nombreux il est vrai, puisque la rédaction n'est composée que de 4 ou 5 personnes. Et quel n'est pas son étonnement et sa surprise, le hasard faisant parfois bien les choses, de se retrouver face donc à Hugo, avec qui elle avait déjà vécu une relation amoureuse aussi rapide que ratée. Et lui, bien entendu, ne semble pas du tout se souvenir d'elle. Et donc, vous l'aurez compris, l'astrologue et conseiller du magazine avec lequel elle va faire équipe, c'est ce gars dont elle est toujours secrètement amoureuse depuis des années et qui, en plus, est le frère de la rédactrice en chef, Delphine. Ce qui ne facilite pas, bien entendu, les choses. Alors, après s'être enfin souvenu de Juliette et de leur histoire passée... En fait, ils étaient sortis ensemble lors d'une soirée d'étudiants et ils étaient tellement beurrés qu'ils s'étaient endormis sur le canapé. Hugo s'excuse pour sa conduite passée. Il est même prêt à reprendre leur histoire là où elle s'était arrêtée. Mais Juliette, qui pourtant semble toujours amoureuse du jeune homme, le décourage pourtant. Il faut dire qu'Hugo est un coureur de jupons invétéré qui ne peut s'empêcher de se retourner lorsqu'une jolie jeune fille passe dans la rue. Animé par cet esprit de dragueur, il est bien décidé à reconquérir Juliette, la jeune vierge effarouchée. Et attention, scoop! Quand je vous parle de vierge effarouchée, il faut le prendre dans le premier sens, car oui, Juliette est née en septembre et est donc du signe de la Vierge, mais avec un grand M, elle n'a jamais connu, comment dire... Pour reprendre
l'homme.
Les termes de Monica dans Friends, elle n'a jamais perdu sa petite fleur, quoi. Et se réserve donc pour l'amour de sa vie.
C'est une vierge au carré.
Oui, tout à fait. Autour de Delphine, rédactrice en chef du magazine, dynamique, parfois jusqu'à l'excès, elle gère entre deux escapades amoureuses les destinées de la rédaction du petit supplément belge, principale préoccupation de la donzelle, sa vie amoureuse. Divorcée depuis 2 ans de Célim, elle entretient une aventure avec un mystérieux amant qui s'avérera finalement être son ex-mari. Autre personnage récurrent, Annemie, la secrétaire de 7e Ciel Belgique, elle a un prénom totalement belge. On ne pouvait pas faire mieux, elle pourrait être un peu comparée à la maman de l'équipe. Annemie se révèle être une personne fidèle, constante, patiente et obstinée jusqu'à l'acharnement. Son caractère facile a cependant ses mauvais côtés. Elle n'aime pas se mettre en colère et préfère la bouderie, ce qui peut à terme s'avérer être une bombe à retardement. Annemie est dévouée corps et âme à la bonne gestion de 7e Ciel. Elle gère à la fois l'administratif, le contact avec les clients, les rapports avec la société d'édition et enfin tout ce qui concerne l'entretien des locaux. C'est une perle, quoi. Hein. Mais si Annemie donne de sa personne, elle attend en contrepartie un minimum d'attention, ce que le reste de l'équipe aurait tendance à oublier.
Et petite caractéristique, c'est aussi la reine des tisanes dégueulasses.
Ah oui, elle est passionnée d'herboristerie, elle n'hésite pas à préparer des décoctions pour soigner les angoisses des uns ou les poussées d'urticaire des autres. Ces breuvages ne sont pas tout le temps couronnés de succès. Les tasses de tisane aux couleurs douteuses et aux goûts bizarres deviendront l'un des gimmicks de la série, parfois même jusqu'à l'excès. Mmh. Enfin, on citera pour la forme l'exaspérant grand patron de 7e Ciel Belgique, Bernard Gérard Grand, qui passe son temps à draguer Anomi et à parler de sa femme, une artiste peintre douée pour les croûtes, mais également le gentil couple parfois en crise formé par Dimitri et Barbara, gérant du snack proche de la rédaction et nommé Le Bistrot. Ça, c'est de l'imagination. Une alliance qui fait parfois des étincelles en mettant face à face le tempérament slave de Dimitri et celui méditerranéen de Barbara.
Un couple qui est secondaire au départ, mais qui, moi je trouve, prend de plus en plus d'importance.
Oui, qui prend beaucoup plus de place. Et d'ailleurs, Barbara et Dimitri deviennent quasiment les amis confidents de Juliette sur ses amours. Et c'est vrai que leurs histoires deviennent de plus en plus conséquentes sur la fin, les 4 ou 5 derniers épisodes de la série.
La honte, la honte, la honte, la triple honte.
Et j'avais honte de moi, c'est pour ça que je t'ai pas rappelé.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Arrête de faire semblant, je sais que t'as pas oublié.
Avant de te revoir, j'y pensais jamais.
Moi aussi, je garde un souvenir assez confus de cette soirée. Je crois que j'avais pas mal forcé sur la tequila.
C'est du ponche.
T'es sûre ?
Certaine. C'était une soirée martiniquaise.
Ah, mais t'as bonne mémoire pour quelqu'un qui s'en souvenait plus ?
Ce dont je me souviens le mieux, c'est qu'il ne s'est rien passé du tout.
C'est pas un peu embrassé ?
Oh, pas de quoi fouetter un chat.
Tu sais, la vérité, c'est qu'à l'époque, tu m'attirais pas tellement. Je te trouvais... Enfin, t'avais un côté un peu coincé.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
Je te trouve beaucoup mieux maintenant.
On fait son petit possible. Toi, par contre, t'as déjà les cheveux blancs, non ? Et toc.
Je vais même te dire un truc. Si je t'avais rencontré aujourd'hui, je t'aurais invité à dîner.
Ah ouais. Il me semble que t'as quelqu'un dans ta vie.
Moi ? Non, j'ai personne. Enfin, rien de sérieux.
Ah non ? Même pas la petite robe noire avec une fermeture éclair ? Je sais, pour toi, l'amour, c'est d'abord une affaire de conquête.
Dîne avec moi et je te prouverai le contraire.
Je crois pas que ça va suffire. T'es bien placé pour savoir qu'il faut en faire beaucoup pour émouvoir le cœur d'une vierge.
Tu peux compter sur moi.
Je te laisse, j'ai un article à terminer. Qu'il est mignon quand il est déçu. Il a l'air un peu homo, non ? Franchement, ça m'aurait arrangé. Mais bon, si lui, il est gay, moi, je suis directrice de CNN.
En fait, toute la série est bâtie sur ce quiproquo qui n'en est pas un, qui est Juliette, qui est encore amoureuse de lui, mais qui lui dit pas, et lui, qui petit à petit retombe amoureux d'elle, quoi. Et ça, c'est les 12 premiers épisodes.
Oui, voilà, c'est ça. Ça tourne un peu en rond, hein.
On va le dire, voilà. Donc, vous avez eu la substantifique moelle de la chose en 30 secondes.
Oui. Puis autour, évidemment, il y a d'autres histoires amoureuses, puisque c'est finalement ce qui nous intéresse, puisque c'est une comédie romantique. Ah, tiens, comme une autre comédie romantique. J'arrive pas à revenir sur le nom, mais je crois que d'ici quelques minutes,
ça va revenir.
Je vais m'en souvenir.
Alors, série belge, acteur belge.
Tout à fait. Alors, tout d'abord, personnage central, pour ne pas dire principal, Juliette Laloux, interprétée par Stéphanie Van Vie. Quasi inconnue avant la diffusion de la série, la jeune actrice est donc quelque peu sortie de l'anonymat suite à la diffusion de la série sur la Une, la première chaîne de la RTBF. C'était bien entendu une première expérience pour elle à la télévision, mais elle n'en était pas à son galon d'essai de comédienne. Elle dispose ainsi d'une licence en art dramatique du Conservatoire Royal de Bruxelles, diplôme obtenu après une agrégation en philologie romane. Elle est donc loin d'être une imbécile. Elle a surtout l'habitude des planches puisqu'elle a joué dans plusieurs pièces de théâtre sur des scènes prestigieuses de Belgique. Mais elle a également une autre corde à son arc. L'interprète de la Vierge Juliette est également maîtresse d'école. Oui, je sais, c'était facile au niveau de son jeu. Si l'on peut facilement dire qu'il est forcé et mécanique dans les premiers épisodes, on se rend compte progressivement que la comédienne trouve peu à peu ses marques et finit enfin, diront certains, par se sentir à l'aise dans les baskets de Juliette.
C'était une toute jeune actrice aussi. Hein. Quand elle a débuté, elle sortait à peine de ses formations. Je crois.
Tout à fait.
Et il faut savoir qu'en Belgique, elle a continué à jouer sur les planches en parallèle.
Face à Stéphanie Van Vive, le rôle d'Hugo est attribué à Yannick Régnier. Si son nom ne vous est pas totalement inconnu, c'est normal puisqu'il s'agit du frère de Jérémy et Géry d'autres frères, les Dardenne, dans les films La Promesse et L'Enfant, mais qu'on a pu également apercevoir dans Le Pacte des Loups. Sachez que Yannick et Jérémy ont tourné ensemble dans le film Nu Propriété. Bref, maintenant que vous avez un peu situé l'acteur, sachez que 7e Ciel Belgique n'est pas sa première prestation dans un feuilleton télévisé puisqu'on avait déjà pu le voir à l'œuvre dans la mini-série Les Maîtres de l'Orge, qui tournait, si je ne me trompe, autour de l'histoire de brasseurs, aussi en Belgique, je pense.
Mm-hmm, c'était une adaptation d'une BD.
De Van Am.
Oui,
Que dire de l'interprétation de Yannick Régnier, si ce n'est qu'il n'est pas le plus convaincant de la troupe, outre l'exaspérant Antoine Vandenberg, qui interprète Bernard Grand, je vous en ai déjà parlé, et qui, soit dit en passant, aurait mieux fait de rester à la présentation de la Call TV Golden Eyes diffusée sur AB3 et NT1. Aucun autre acteur de 7ème ciel Belgique n'a si peu d'évolution de son jeu sur les 12 épisodes de la saison 1. On ne sera donc pas trop déçu que le Playboy de service parte enseigner l'astrologie au Québec à la fin de la première saison.
C'est assez bizarre, parce que lui a par contre été présent comme la vedette du show, hein, en Belgique en tout cas.
Bah, c'était surtout la belle gueule en fait, hein, le gars qui était là pour attirer les minettes, mais personnellement j'ai jamais trouvé que son jeu était fantastique ni formidable.
C'est parce que tu n'es pas une minette.
Ça doit être ça. La perle de cette série reste l'excellente Gudule, connue des petits Belges pour ses participations régulières à l'émission Jeunesse Ici Blabla. Cette sociétaire de l'équipe nationale belge d'impro en fait parfois un peu trop avec son personnage de Delphine, mais reste toujours dans le registre de la sincérité. Et puis joli coup de la production que de nous proposer pour une fois autre chose qu'une pin-up de service qui se dénude. Ici c'est une actrice de plus de 40 ans avec déjà quelques rides qui se trouve être la folle de sexe de la série. Et ce n'est pas plus mal, cela nous change des Pamela Anderson et autres Tiffany Ambertison à la place irréprochable. Vous avez pu déjà entreapercevoir cette excellente actrice dans un épisode de Crime en série ou de Sauveur Giordano.
Elle me rappelle d'ailleurs pas mal de journalistes que j'ai connus quand j'étais à l'époque journaliste. Ouh, ça fait vieux ça. Mais surtout, moi je me souviens d'avoir eu un débat avec une collègue à ce propos. Elle me disait qu'elle ne supportait pas parce qu'elle la trouvait très moche et que, selon elle, dans les séries il devait y avoir que des belles gueules. Eh ben, je suis absolument pas d'accord avec ça.
Enfin, on est proche de la réalité. Il y a parfois des gens...
Ouais.
Et puis elle a son charme.
Puis moi je trouve
part.
Qu'elle a un charme... Ouais, c'est ça quoi. Charme de la quarantaine torride. Moi, j'aime bien ce personnage et cette actrice. Alors,
deux
série
questions.
Belge, ouais, vas-y, dis-moi.
Deux questions. La première, est-ce que 7ème ciel Belgique est le renouveau des séries TV belges?
Renouveau, mais il y a déjà eu un nouveau tout court des séries belges.
Ah oui, depuis... on a quand même eu quelques petites perles. On a eu le capiteux Affaire de famille sur RTL TVI. On n'avait plus droit à une production maison depuis. Pour les chaînes francophones belges, il faut dire que le dernier grand succès remonte à 1988 sur la RTBF. Il s'agissait de la sitcom avant l'heure, Le Bonheur d'en face, avec l'inénarrable Annie Cordy.
Oh là là.
Petite parenthèse en passant, si le sud de la Belgique est pauvre en production propre de séries, le nord par contre ressemble plus à l'Eldorado. Nombreuses sont les productions propres de la télévision, tant publique que privée en Flandre, et celles-ci remportent un vif succès. Des coproductions et des synergies existent également avec les Pays-Bas.
Oui, il y a aussi pour le sud de la Belgique, il faut le dire, des coproductions avec la France. Un épisode par-ci par-là de l'Instit ou de Crime en série.
Oui, on peut citer l'un ou l'autre Maigret aussi, version Crémer, ou quelques Joséphine Ange Gardien, ou des participations aussi dans diverses séries de l'été.
À propos du nord du pays, on peut citer Matrioshki, qui a quand même été une très très bonne série de l'an dernier, je pense.
Je crois qu'il a même été diffusé sur M6, donc
voilà.
Quelque part, c'est un signe pas nécessairement de qualité, mais que la série flamande peut aussi s'exporter. Donc, depuis, plus rien de neuf n'avait vu le jour depuis Belle Lurette. Et voilà, Tipa, que la RTBF décide de réinstaurer une case fiction sérielle belge et crée 7ème ciel, avec l'espoir qu'en cas de réussite, le créneau puisse à nouveau être exploité. Et bien finalement, le pari semble gagné. Malgré certaines faiblesses, 7ème ciel a réussi à fidéliser l'audimat minimum qu'avait imposé la direction de la RTBF. On aura donc droit à une seconde saison prévue après septembre 2007, mais aussi à une seconde série qui devrait quant à elle arriver sur nos écrans plus tôt, mais toujours courant 2007, son titre typiquement belge, Melting Pot. En fait, le nom du plus vieux café de Bruxelles, ici moins de risques pris par la télévision publique puisque seuls 6 épisodes ont été commandés. Bref, on peut effectivement parler de renouveau de la série belge francophone, même si l'on s'attendait à plus d'audace et d'ambition.
Il faut savoir que ça n'a pas été un renouveau facile non plus, hein, parce qu'il aura fallu, je pense, au moins 3 ans entre la sélection des différents projets et la diffusion sur antenne, donc ça n'a pas été tout seul. Je pense qu'ils n'ont pas non plus beaucoup d'appui du côté de la chaîne, qui n'avait pas décidé d'investir dans des fictions belges. Et donc, bon, ça a au moins du mérite pour ça. Ceci étant, je ne suis pas sûre que ça ait eu du succès avec le public que ça visait au départ. Parce que moi, quand j'en parle autour de moi, en fait, ce sont les jeunes adolescents qui ont bien aimé, les jeunes filles en fleurs et les garçons qui se demandent à quoi ça ressemble d'embrasser une fille, et pas vraiment les jeunes de 25-30 ans, qui étaient pourtant la cible au départ, qui étaient la même cible que la série dont elle semble s'inspirer et dont on n'a toujours pas cité le nom.
On va peut-être y venir. Donc, j'avais une deuxième question et ça tombe bien que tu me parles de ça. Quand on évoque 7ème ciel Belgique, je voudrais savoir si trop de références ne tuent pas dans l'œuf une œuvre qui sera d'office moins originale et moins drôle que sa principale inspiration. Je vais développer évidemment les principaux ingrédients de 7ème ciel Belgique sont une héroïne gaffeuse qui passe son temps à tomber ou à faire des lapsus au plus mauvais moment.
En plus, complètement fleur bleue.
Tout à fait. Cette même héroïne qui passe son temps à avoir des conversations intérieures avec elle-même, des toilettes mixtes, ou plutôt une salle de bain mixte, où les confidences les plus importantes sont dites.
Quand elle n'a pas des visions, en fait, aussi. Tu parles de dialogue intérieur, mais...
Une secrétaire et une patronne des plus excentriques, une héroïne à nouveau qui retrouve son amour d'enfance et va travailler avec lui, et donc retomber amoureuse de lui. J'arrête là ma démonstration. Si vous n'avez pas encore fait le rapprochement, c'est que vous n'avez jamais vu un épisode d'Ally McBeal.
Oui, tu pourras aller plus loin, parce qu'il y a le côté un peu à la fois sitcom, à la fois romantique, donc drôle et un peu dramédie, quoi.
Tout à fait.
D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, j'avais discuté avec la directrice du secteur fiction de la RTBF, qui m'avait parlé de ces projets qu'ils sélectionnaient et qui m'avait dit ce qui serait bien, c'est de trouver un truc qui soit chouette et frais, enfin un peu comme Ally McBeal. On passait Ally McBeal à l'époque, et je remarque avec assez d'étonnement qu'en fait ils ont fait Ally McBeal en belge,
ouais.
En moins de moyens.
Pourquoi justement avoir tant voulu imiter la série de la jeune avocate aux jupes courtes, d'autant que la production avait alloué à la série un budget relativement confortable qui aurait pu lui permettre d'être un peu moins consensuel. Mais bon, peut-être les créateurs, à tort ou à raison, ont préféré démarrer avec une série très très grand public pour permettre ensuite la production d'œuvres un peu plus décalées. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. On verra déjà ce que vaudra Melting Pot dans quelques semaines ou quelques mois.
Il faut savoir que Michel Podrosnik, qui avait travaillé jadis sur PJ, a eu un droit de regard sur les scénarios. Je pense qu'ils se sont rendus compte au début que ça fonctionnait pas très bien, et donc ils ont fait relire leurs scénarios par les Français. Donc, effectivement, ça n'est pas parti comme ils le pensaient et qu'ils ont dû retravailler.
Septième Ciel Belgique n'est donc pas la série du siècle, mais reste tout de même un moment rafraîchissant dans le paysage audiovisuel belge. Enfin, autre chose qu'une énième rediffusion de Julie Lescaut ou de Navarro. Alors oui, les acteurs ne sont pas toujours très à l'aise, surtout au début. Oui, certaines scènes, comme celle du rendez-vous romantique sur le pont-levis, sont d'un mièvre et d'un kitsch sans nom. Oui, toujours, 7ème Ciel Belgique est une pâle ressucée d'Ally McBeal version tournésienne. Mais bon, la série se bonifie au fil des épisodes, et les 4 derniers sont d'ailleurs bien meilleurs que leurs prédécesseurs. Dommage qu'il ait fallu attendre jusque-là et perdre au passage de nombreux téléspectateurs en route.
Faire ta Noël.
Non, t'es sûr?
Du coup, je pense pas qu'on soit là pour parler de ma chemise.
Non, mais comme je sens que j'ai pas aimé ce que t'as amené, je préfère parler de ta chemise.
D'autant plus que c'est pas moi qui vais parler, mais c'est toi. Je voudrais que tu me dises franchement ce que t'as retenu de cette thérapie.
Que j'étais pas douée pour l'équitation, que j'ai eu des courbatures pendant 4 semaines à cause du canoë. Tu sais, Ngo a dit un truc bizarre hier. D'après lui, on serait pas allé le voir pour nous réconcilier, mais plutôt pour solder le passé.
C'est pour ça que j'ai pas voulu venir. Je me suis rendu compte qu'on se quittait pour de bon. Ça m'a fait mal.
Ben, on n'a qu'à plus y aller. De toute façon, ça commence à me gonfler.
Delphine, garde la réalité en face, s'il te plaît.
Ben justement, j'ai fait les comptes. Tu sais ce que ça nous a coûté depuis le début?
Delphine, arrête. Si tu continues, je me lève et je m'en vais.
Que je regarde la réalité en face. Moi, je la regarde. Tu sais ce qu'elle me dit? Qu'on n'est plus un couple. Que les beaux jours sont derrière nous et qu'il faut cesser de vivre dans la nostalgie parce qu'on se fait du mal. Et qu'on s'aime encore assez pour avoir envie de se préserver. Fais des progrès.
On retrouve notre chère Juliette au début de cette saison 2, amoureuse toujours de son Jules, partie au Canada et qui fait sa romance par téléphone. Mais on se rendra très bien vite compte que ça ne peut pas durer des jours et des jours, et il finira par la plaquer. Il devait la rejoindre pour un rendez-vous amoureux, lui faire une surprise, et finalement il vient pas. Donc elle décide de l'envoyer balader. En plus, elle tombe sur une jeune fille lorsqu'elle lui téléphone, donc elle aura très bien vite compris que son statut de bourreau des cœurs a repris le dessus dès qu'il a passé la frontière canadienne. On retrouve donc Juliette, désespérée, désemparée, parce que son seul et unique amour la larguer et arrive dans la vie de Septième Ciel, Gaspar Spelting, un gars un peu bourru qui va jouer le rôle du nouveau astrologue, Astro King à l'intérieur de la rédaction. Et évidemment, Juliette va tomber amoureuse de lui.
Je lui trouve un petit air de Dominique Porcel, moi, ce mec. Oui. Mais vraiment de loin. On dirait qu'ils se sont dit, tiens, on va prendre un mec un peu brun, mal rasé.
Pour la première saison, ils avaient bien regardé sur Ally McBeal. Ici, ils prennent le carcan Ally McBeal, mais ils rajoutent en plus le carcan Desperate Housewives, parce que durant toute la saison, on va avoir un fil conducteur, c'est une enquête semi-policière sur qui est devenu l'ex-associé de Gaspar. Gaspar qui, avant d'être astrologue, avait fait de la tôle et qui a perdu beaucoup d'argent d'une escroquerie. Son ex-complice est parti avec la caisse, si vous voulez. Et donc, il y aura toute une enquête là-derrière pour essayer de retrouver cet argent et essayer aussi que Gaspar ne soit plus coupable de ce vol. Je vais quand même être un peu gentil avec cette série parce que finalement, j'avais pas été super enthousiaste à la fin de la première saison. Je trouve que la deuxième saison se rattrape bien. Et on aurait dû commencer par cette deuxième saison. Beaucoup plus de rythme, trop parfois, alors que la première saison était très très lente. Des histoires intéressantes. On arrive parfois à accrocher à certaines de ces histoires, notamment les différentes romances de Delphine Melotte qui a des romances avec un type beaucoup plus jeune qu'elle. Et c'est vrai que l'histoire d'amour entre deux est vraiment intéressante. Les personnages ultra exaspérants de la saison 1 ont disparu ou deviennent attachants, bizarrement. Il y a Hugo Melotte, interprété par Yannick Régnier, qui disparaît donc au début de la saison 2, et c'était l'un des plus exaspérants. Mais je prendrais par exemple l'exemple de Bernard Grand, qu'il était au plus haut point exaspérant parce qu'il ne faisait que gesticuler. Cette saison-ci, il a un personnage qui prend beaucoup de profondeur au niveau de ses caractéristiques, et il n'est plus là que pour faire le clown. Il fait de temps en temps le clown, mais là, c'est réellement justifié. Donc, cette saison 2 se vaut vraiment. Elle est intéressante. Si on passe le cap de la première saison, la saison 2 est intéressante. Alors, le gros problème de cette saison 2, c'est que la RTBF s'est rendu compte que la série ne marchait pas, probablement à cause de cette saison 1 ratée, et ils ont décidé d'arrêter les frais.
La série a perdu le public qu'elle avait acquis dans la première saison. Le public acquis dans la première saison, c'était les jeunes, très jeunes, en dessous de 15 ans, et les vieilles personnes, qui n'ont pas du tout suivi la deuxième saison, mais la deuxième saison n'a pas acquis le public qu'il avait...
Elle n'a pas rattrapé le public qu'elle était censée avoir.
Qu'elle n'avait pas réussi à voir. Donc, ils ont eu que la soustraction du public, et donc...
Ça faisait plus grand-chose, évidemment. Et de ce fait-là, la RTBF n'a pas décidé de signer pour une troisième saison, alors que la série était prévue au départ pour trois saisons. Malheureusement, il se fait que la première saison était prévue pour se terminer et se clôturer quasiment à la fin de la première saison, c'est-à-dire qu'on a réellement une vraie fin à la fin de la première saison. Ici, la saison 2 se termine sur une fin complètement ouverte. Et là, je dis, c'est extrêmement frustrant. Parce qu'on avait réussi à s'attacher aux personnages. Ils ont réussi à nous faire une fin fermée à la fin de la première saison. Et ils ne font pas la même chose à la fin de la deuxième. Et ça, je trouve ça scandaleux. Je trouve que c'est un vrai scandale d'avoir terminé la série ainsi, parce qu'on laisse vraiment le personnage de Juliette Lalou en plan au milieu d'une scène de danse. Ça laisse en plan plein de personnages, et notamment le personnage d'Anne-Mie, qui est l'un des personnages les plus attachants de cette série, qui décide de quitter l'aventure complètement, et on ne sait pas où elle est partie. Et ça, c'est assez triste de terminer cette série ainsi, d'autant que cette deuxième saison était de beaucoup supérieure à la toute première.
On peut juste en conclure que peut-être que les scénaristes ont appris à écrire et que donc la prochaine série RTBF sera super. D'ailleurs, il y a plus qu'un projet série RTBF qui est dans les cartons, donc a priori, c'est une bonne nouvelle.
Et d'autant qu'on attend la saison 2 de Melting Pot Café, dont on aura peut-être l'occasion de parler ici dans peu de temps.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.